C'est bon, bonjour. Vous m'entendez déjà? C'est magnifique. Ça m'a fait plaisir de chanter parce que la semaine passée j'étais au Cathay, j'ai pas pu chanter et cette fois c'est bon, j'ai pu chanter. Merci beaucoup à l'équipe qui nous accompagne fidèlement. Je pense que pour vous c'est aussi un ouf de soulagement. J'ai cru comprendre et sentir ce matin que c'était le cas. Les héroïnes de la foi, on va voir qu'il y en a pas seulement à Nyon, mais il y en avait aussi il y a 2000 ans en Galilée. Jésus est vivant car il est. On a le droit de le dire ailleurs qu'à Pâques, à d'autres moments qu'à Pâques. Vous le faites bien, c'est magnifique. Et pourquoi il est ressuscité, on ne sait pas. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est qu'on a des témoignages. Et ces témoignages, ils sont portés par des femmes. Les femmes qui ont, je lis dans l'évangile de Luc, chapitre 23, 55 à 24, 12. Les femmes qui ont accompagné Jésus depuis la Galilée viennent avec Joseph. Elle voit la tombe, elle regarde comment on place le corps de Jésus. Ensuite, ces femmes, elles rentrent chez elles. Elles préparent l'huile et les parfums pour son corps, mais le jour de sabbat, elles ne travaillent pas. En effet, c'est interdit par la loi. Le dimanche matin, très tôt, les femmes vont vers la tombe. Elles apportent l'huile et les parfums qu'elles ont préparés. Elles voient qu'on a roulé la pierre qui fermait la tombe. Elles entrent, mais elles ne trouvent pas le corps du Seigneur Jésus. Elles ne savent pas ce qu'il faut penser. Tout à coup, deux hommes se présentent devant elles. Ils portent des vêtements très brillants. Les femmes ont peur et elles baissent la tête. Les deux hommes leur disent: « Mais pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, mais il s'est réveillé de la mort. En effet, rappelez-vous ce qu'il vous a dit quand il était encore en Galilée. Le Fils de l'homme doit être livré au pouvoir des pécheurs. Ils vont le clouer sur une croix. Et le troisième jour, il se relèvera de la mort. » Alors, les femmes se souviennent des paroles de Jésus. Elles quittent la tombe. Et elles vont raconter tout cela aux 11 disciples et à tous les autres. Pour ce qui est la lecture. Des héroïnes de la foi, impossible de dire autre chose. Ces femmes, ce sont Marie-Madeleine, Jeanne, Marie, la mère de Jacques, et d'autres femmes encore. On comprend mieux pourquoi certaines s'appellent Marie dans les milieux chrétiens, n'est-ce pas? Tu es une héroïne, Marie. Impossible de dire autre chose, car ce sont les toutes premières qui annoncent l'élément central de notre foi chrétienne. Elles annoncent qu'il y a un problème, la tombe est vide. Héroïne aussi, parce que Dieu, dans sa volonté, il envoie deux messagers pour faire porter ce message à qui? À ses disciples? Non? Aux femmes qui viennent. On peut vraiment pas dire autre chose. Ce sont des héroïnes de la foi. Et je dirais même que ce sont les toutes premières héros, que ce soit masculin ou féminin, de notre foi chrétienne. Ce sont ni plus ni moins que les premiers témoins de la résurrection et ni plus ni moins que les premiers missionnaires de la foi chrétienne. C'est pas rien, hein? Donc, en ayant le choix de faire cette série ici à la Frat, on ne pouvait pas faire autrement que de commencer par ces femmes qui sont témoins de la résurrection. Tout commence par elles, tout est finalement sur leurs épaules. Et elles ont assumé, c'est ce qu'on va voir. Car sans les femmes, pas d'annonce de la résurrection, sans les femmes, pas de mission chrétienne. D'ailleurs, Marie de Magdala, qui est un peu celle qui se détache de toutes ces femmes, était même considérée à une certaine époque de l'histoire de l'Église comme l'apôtre des apôtres. Mais ça a dérangé trop de monde, puis depuis son statut s'est dégradé jusqu'à aujourd'hui. Et maintenant, je pense que ça rebondit un peu et ça va remonter. Donc on y croit, on est dans la bonne direction à ce niveau-là. Mais c'est assez intéressant de voir qu'elle était considérée dans les tout premiers temps de l'Église comme l'apôtre des apôtres. Pourquoi? Parce que Dieu avait confié ce message de la résurrection à Marie de Magdala. Dans ces héroïnes de la foi, il y a des noms connus, je viens de vous en parler, il y a des inconnus. Et je trouve ça très beau, et ça rejoint votre introduction de tout à l'heure, c'est de se dire que ce statut finalement d'héroïne, même dans la Bible où on pourrait penser que ce sont les personnes importantes qui sont mises en avant, qu'il y a tout de suite des noms qui sont là derrière, il y a des noms, mais j'aime beaucoup cette liste de Luc parce qu'il cite trois personnes et puis après il met « et toutes les autres ». On ne sait pas qui c'est, mais elles sont aussi témoins de la résurrection. Il y a des noms qui ressortent et il y a toutes les autres. Comme quoi, je trouve que dans la Bible, il y a une forme de mettre tout le monde un peu à égalité. Il y a des personnes qui ressortent, mais il y a d'autres qui sont citées et elles ont la même importance, la même mission qu'il leur est confiée de porter témoignage de quoi ? Que Jésus est ressuscité. J'aime beaucoup leur attention. Elle est constante, cette attention. Je ne sais pas si vous avez vu, hein. Ce sont les seuls qui restent au pied de la croix. Tous les autres sont partis. Ce sont celles qui accompagnent Joseph, qui n'était pas parmi le groupe des disciples, pour la mise au tombeau. Là aussi, elles restent près du maître. Et surtout, le dimanche matin de Pâques, ce sont celles qui se lèvent à la pointe du jour, quand il fait encore sombre, pour aller s'occuper du corps du Christ. Elles sont les premières à trouver le tombeau vide, ce qui signifie qu'elles sont tout le temps là, présentes, focus sur Jésus. Et en plus, je ne sais pas si vous avez remarqué, elles sont fidèles au commandement, c'est-à-dire qu'elles ne font rien le jour du sabbat. Elles se retiennent finalement d'aller visiter le tombeau le jour du sabbat. Donc en plus, elles sont avec une piété impressionnante. Des vraies héroïnes, merci. Il y en a quelqu'un qui suit. C'est magnifique. C'est vrai qu'on peut être impressionné de tout cela, hein, leur attention, leur action, leur piété, et on ne va même pas s'autoriser la comparaison avec le reste du groupe des 12 disciples, qui pour eux, la liste, c'est calme plat, rien ne se passe, rien ne se vit. Et pourtant, malgré tous ces attributs, je dirais, assez logiques qu'on peut mettre en avant sur leur qualité d'héroïne, le texte biblique nous dit « elles n'y sont pas ». Elles se trompent de cible. Et ça, c'est le premier point de bascule. Toute cette attention, finalement, est concentrée au mauvais endroit. Et il y a un petit côté tragique dans toute leur attention. La préparation des aromates, le fait qu'elles se lèvent tôt, le fait qu'elles préparent tous ces éléments-là, qu'elles respectent le jour du sabbat, c'est concentré sur un tombeau qui est encore habité. Et là, leur premier point de bascule, c'est qu'elles sont amenées et invitées, puis on va voir encore par la suite que ça va prendre de l'ampleur, que leur attention doit se tourner ailleurs. L'attention des femmes est encore exclusivement tournée vers le passé, vers un cadavre, et ce matin-là, premier point de bascule pour aller vers quelque chose d'autre. Le point de bascule, c'est que cette pierre est roulée. Elles ne savent pas ce qui s'est passé, mais elles voient juste qu'elle s'est roulée. Elles entrent, le corps n'est plus là. Deuxième point de bascule. Elles n'y comprennent rien du tout. Et on le serait à moins. On est sur le point de bascule et pas loin du point de rupture. Le point de rupture, il arrive avec deux hommes qui se présentent à elles vêtus de vêtements brillants. C'est tout ce qu'on sait. Mais on peut assez facilement déduire que ce sont des anges, c'est-à-dire des envoyés de Dieu. On peut se rappeler aussi que là, ce ne sont pas les premières héroïnes qui reçoivent la visite des anges. Hein. Marie, la mère de Jésus, la mère de Dieu, a elle aussi reçu la visite d'un ange pour lui donner cette mission, pour donner la vie. Pour nos héroïnes, là, c'en est trop, c'est le choc, ce point de rupture qui les fait s'incliner face contre terre. Une manière de dire et de vivre le respect absolu. Mais une manière de dire aussi, là, ça nous dépasse. Déjà, il y a le tombeau qui est vide, déjà, il n'y a plus personne, et ensuite, il y a l'arrivée de ces deux hommes en vêtements brillants. Leur début de matinée était déjà peu commune, avec la découverte de ce tombeau vide et ce corps qui n'y est plus. Là, il prend encore une dimension autre avec un A majuscule. Nous sommes finalement bien loin d'une quelconque découverte de tombeau vide. Nous sommes en présence là de Dieu qui agit. Et c'est là le point décisif, finalement, de ce matin de Pâques. C'est ce point de rencontre entre le ciel et la terre qui prend corps à travers un dialogue entre les deux hommes et les femmes. Point de rencontre qui fait que cette matinée, déjà hors du commun, digne d'héroïne, hein, avec des éléments effectivement héroïques, il prend encore une dimension supplémentaire parce que là, il y a un point de rencontre entre le ciel et la terre. Il n'y en a pas énormément qui nous sont relatés de manière si évidente dans la Bible. On peut penser par exemple à l'échelle de Jacob, hein, où il y a cette échelle qui monte et qui descend entre la terre et le ciel. On est dans ce type de rencontre-là, décisive, et qui va marquer l'histoire de l'humanité. C'est un point qui va donner naissance à énormément d'autres choses. Et ce point de rencontre, il est résumé en une seule question, et je trouve que c'est magnifique d'avoir eu le témoignage de Solène juste avant, parce qu'il donne une direction exactement la même que celle que je voulais donner à mon message, et à la même que, finalement, le message chrétien souhaite donner. Pourquoi chercher le vivant parmi les morts? Attention complète sur la vie. Pourquoi chercher le vivant parmi les morts? Le point de rencontre entre Dieu et les hommes, la phrase que les envoyés de Dieu choisissent, c'est celle-là. Pourquoi chercher le vivant parmi les morts? Le premier jour de la semaine, finalement, le jour avec un grand J où se manifeste la toute-puissance de Dieu, c'est un jour de victoire. Les femmes, elles sont parties avec piété pour rendre leur devoir à un cadavre, et les femmes se retrouvent en présence d'un acte de Dieu. La mort est vaincue. Et qu'est-ce qui manque encore? La réponse de la foi. Et là, le moins qu'on puisse dire, c'est que la réponse de la foi, elle ne se fait pas attendre. Et là, de nouveau, on retrouve une caractéristique héroïque, c'est que les femmes, elles ne sont pas lentes à la détente. Je ne sais pas si vous avez remarqué avec quelle rapidité elles réagissent à la parole du Seigneur. Ils leur disent, les anges, qu'il faut se souvenir des paroles de Jésus, qu'est-ce qu'il leur avait donné à penser, qu'est-ce qu'il leur avait annoncé. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en un claquement de doigts, elles comprennent. Ça, je pense que ça va servir après beaucoup de discussions dans les chaumières à midi, de savoir est-ce qu'on est plus rapide ou plus lent la détente en tant qu'homme ou femme. Mais toujours est-il que là, les héroïnes de la foi, elles sont extrêmement rapides à la détente. Nombre de fois où Jésus dit à ses disciples, mais punaise, combien de temps je devrais encore vous expliquer ce qui se passe? Combien de temps allez-vous encore mettre pour comprendre enfin ce qu'il y a derrière? Les femmes, une intervention d'un ange, et elles comprennent toutes les annonces qu'ils ont précédées. Et qu'est-ce qu'elles vont faire? La première chose qu'elles vont faire, elles vont le partager à tout le monde. Donc, dans le genre rapide à la détente, en tout cas, ces trois-là et les autres, c'est excellent. Il y a une forme d'immédiateté de foi qui est absolument impressionnante. Et moi, je suis toujours touché, je pense que c'est la xème fois que je relis ce texte de la résurrection, puis plus je le relis, plus je l'apprécie, je crois. Puis plus je l'aime parce que je vois ces éléments-là de vie qui sont transportés et qui me transportent encore maintenant, plus de 2000 ans après. Il y a quelque chose de mystérieux dans cela, qui me met en avant, qui me met dans cette direction de la vie. Et la première réponse de la foi, c'est de partager ce qu'on a vécu. Là, c'est évident, je pourrais vous faire toute une série de prédications sur l'évangélisation. Je pourrais vous faire toute une série de prédications sur ce qu'il en est pour partager l'évangile. Et là, on a un exemple des héroïnes de la foi qui est absolument extraordinaire. Première chose qu'elles font, elles ont compris, elles vont le dire à leurs amis, les disciples. Elles partagent leur découverte. Souvent, et très souvent, ce qui nous retient de parler de Jésus et de notre foi, c'est la peur d'avoir l'air un peu bête ou d'avoir l'air niais. Alors, imaginez les femmes le matin de Pâques. Est-ce qu'elles ont eu peur d'avoir l'air niais et l'air bête? Heureusement que non, hein. Si elles avaient eu peur d'avoir l'air bête ou l'air niais, est-ce qu'elles auraient dit que Jésus était ressuscité? Est-ce qu'elles auraient dit à tout le monde que le tombeau était vide? Est-ce qu'elles auraient dit à tout le monde, on n'a pas trouvé le corps de Jésus? Il n'y avait pas meilleur moyen d'avoir l'air bête et niais que de dire des inepties de ce genre-là. C'est impossible que quelqu'un ressuscite. Que les choses soient claires, on n'a jamais vu ça. Et pourtant, c'est ce qu'elles s'empressent d'aller partager. Et là encore, dans notre partage de l'Évangile, je crois qu'on a un exemple d'héroïne de la foi qui nous pousse en avant et qui nous inspire. Elles n'ont pas tergiversé une seule seconde, elles y sont allées avec le cœur du message, Jésus est ressuscité. Et leur deuxième point, c'est qu'elles ont l'envie de le partager en communauté. La première chose qu'elles font, c'est qu'elles vont rencontrer les disciples et leur disent « Hé les gars, on a trouvé un truc qui nous dépasse, on a reçu la visite des anges pour vous dire, à vous en premier, que le Christ est ressuscité et que ce n'est pas n'importe quoi. » Ils ont un peu de la peine à les comprendre hein, au début. Les mecs, ils sont là, c'est bien rigolo, mais ça ne va pas le faire. Nous, on n'y croit pas absolument. Ils les prennent pour des écervelés et ils les mettent de côté. Certains disent même que c'est une des preuves que la résurrection a vraiment existé, c'est que si elle avait été inventée, on n'aurait jamais confié cette bonne nouvelle à des femmes, parce qu'elles n'étaient pas considérées comme crédibles. Et on le voit à travers ce texte que les disciples mâles ne considèrent pas ce témoignage comme étant crédible, en tout cas tout de suite. Il y en a un qui se lève quand même, c'est Pierre. Dans un autre évangile, on dit qu'il y a Jean, mais 12 sur 12, ça ne fait pas encore une proportion qui est phénoménale. Donc, ils se lèvent, ils vont regarder ce qu'il en est. Et moi, ce qui me frappe, c'est qu'on a beaucoup glosé sur les ministères féminins, sur les ministères masculins dans l'Église. Et là, au tout début de l'Église, au moment où tout démarre, il n'y a aucune frontière finalement. Il y a une mission qui est confiée aux femmes, les femmes vont la confier aux hommes, ensuite les hommes vont voir ce qui se passe. Je trouve d'une fluidité extraordinaire. Puis c'est la première fois que ça me fait tilt comme ça, puis je me dis, mais comment ça se fait qu'on a réussi à compliquer le truc autant après? Alors oui, il y a des textes bibliques à d'autres endroits qui font que... Mais au cœur de l'Évangile, la première chose qui s'est passée, il y avait une fluidité de ministère qui était extraordinaire. Ils ne se posaient pas la question de mettre chacun dans sa case. Il y avait simplement l'Esprit qui faisait son œuvre et une collaboration en communauté qui était absolument extraordinaire. C'est un peu comme dans le récit de la création, je trouve, où tout était une forme d'harmonie. Là, il y a une forme d'harmonie dans ce qu'il en est. Pourquoi chercher le vivant parmi les morts? C'est la question que je nous laisse ce matin et que je nous laisse maintenant pour avoir un temps de méditation. On peut faire un parallèle avec ces femmes et nos héroïnes de ce jour, hein, finalement. On peut faire tout juste, être pieux, être tout ce qu'on veut, avoir toutes les caractéristiques positives, et pourtant, on peut porter notre attention à la mauvaise place. On peut faire toutes sortes de bonnes choses, et pourtant, porter notre regard sur quelque chose qui est mort. Vers quoi notre attention se porte-t-elle? Est-ce que notre attention se porte en priorité vers des éléments morts ou sans vie? Est-ce que je me sens tiré assez régulièrement par le bas, finalement, par ce qui me pèse, par des éléments lourds? Y a-t-il quelque chose en moi qui capte la vie, pourtant donnée par Dieu? Et même au niveau de ma foi personnelle, est-ce qu'il y a quelque chose qui capte cette vie qui est en moi? Est-ce que la puissance de la résurrection signifie encore quelque chose dans ma vie? Ce ne sont pas des questions faciles, hein, pas du tout. Puis d'ailleurs, je me les suis imposées à moi-même, et puis j'ai trouvé que c'était très fort de faire descendre ces questions-là, de vie finalement au plus profond de moi, et de savoir mais qu'est-ce qui est véritablement en moi, et qu'est-ce qui me gouverne? Est-ce la puissance de la résurrection qui me donne la vie? Ou est-ce que ce sont ces puissances de mort qui, des fois, sont comme des boulets parce qu'on regarde en arrière, un peu comme les femmes qui vont s'occuper d'un cadavre alors qu'il est vivant? Ce ne sont pas des questions faciles, mais je crois qu'on est au cœur de la bonne nouvelle de se dire qu'on a cette vie qui nous est donnée de la part de Dieu. C'est peut-être des questions qui vont prendre beaucoup plus de temps que la matinée pour y répondre. Je suis tout à fait conscient. pas se dire, bon, peut-être qu'il y a, c'est possible qu'il y ait des miracles, mais on ne peut pas se dire, clac, on sort du culte, on aura tout réglé. Ce n'est pas ça le but. Mais c'est par contre de se dire, qu'est-ce qui me manque peut-être pour porter mon attention à la bonne place, de porter mon attention sur la vie qui m'est donnée par Dieu. Et dans ce sens-là, je vous propose aussi de méditer avec quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Simone Paco, qui a fait tout un ministère qui s'appelle l'évangélisation des profondeurs, qui nous dit « La vie, elle t'est donnée, comme à tout être humain. Mais si tu veux devenir véritablement un vivant, choisis de vivre, quelles que soient les circonstances de ta vie. » Et je le dis en pensant à ce que ça peut signifier. J'entends beaucoup d'histoires en tant que pasteur, je pense que vous en entendez aussi beaucoup. Et je crois que malgré tout, cette parole de vie qui est posée sur nous, sur chacune de nos vies individuellement, nous qui sommes réunis dans cette salle et vous qui êtes derrière votre caméra, ces paroles de vie, elles restent vraies parce que c'est ce que nous croyons qui s'est passé le matin de Pâques. C'est que Jésus, il n'est plus dans le tombeau, c'est qu'il est ressuscité et qu'il nous donne cette vie. Alors, cette vie qui t'est donnée, qui m'est donnée, comme à tout être humain, et nous la partageons en communauté, si nous voulons devenir véritablement des vivants, choisissons de vivre, quelles que soient les circonstances de ta vie. Je nous laisse sur ces paroles et ces questions pour être accompagnés en musique et ensuite on pourra nouer la gerbe en unissant nos voix pour un chant. Où est-ce que je dirige mon attention ? Y a-t-il quelque chose qui capte la vie qui est en moi ? Amen.